quand on regarde sur Internet, parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant, n'est-ce pas, on constate qu'il est professeur émérite d'histoire des religions de l'Université catholique de Louvain. Mais on ne voit pas toutes sortes d'autres choses qu'il fait encore à Louvain, ou la Neuve où il habite. Je ne sais pas s'il a fait les 24 heures du vélo, mais... Il est aussi directeur de la revue Les Voix de l'Orient, dont il vous parlera peut-être. Il est ceci, il est cela, etc. Et puis je vais voir sur le site de la Nouvelle Revue Théologique, ça c'est aussi le must, hein, la Nouvelle Revue Théologique. Il a fait 36 choses, 36 articles dans la Nouvelle Revue Théologique. Je vous dis les titres, quelques-uns des titres, pas tous, mais vous verrez jusqu'où va son territoire, si j'ose dire. Bouddha et le Christ. Bon, il a écrit là-dessus, Bouddha et le Christ. Il a écrit Chrétiens et musulmans à l'écoute de leurs écritures, à propos d'un ouvrage récent. Henri Le Saux, moine chrétien et renonçant hindou. Bouddhiste, hindouiste, islam, hein, vous voyez comment ça va. Et puis toutes sortes d'autres choses. Même ceci, contribution de l'Afrique et de l'Asie à une théologie contemporaine, mondiale. C'est la mondialisation à la jésuite. Alors, il a écrit dernièrement un très bel ouvrage que vous avez peut-être déjà acheté quand Lessius a fait sa grande pub là, il y a quelques semaines. Un chrétien dans les pas du Bouddha. Le chrétien dans les pas du Bouddha, ça doit être lui, ou en partie lui, je ne sais pas. Il va nous en parler. Il y a au dehors, là, sur la table de Madame Florence Verbruggen, qui vous accueille toujours avec la boîte pour la collecte, là, hein, eh bien, il y a quelques prospectus concernant cet ouvrage. Il a dirigé, animé la table ronde qui présidait donc à l'échange entre ces trois théologiens, disons comme ça, à propos des versets douloureux de la Bible, de l'Évangile et du Coran. C'était le rabbin Meyer, c'était le père Yves Simons, jésuite, exégète, et c'était... l'imam Soip Benchek de Paris et du Caire qui dialoguait entre eux à propos des versets odieux de leurs écritures respectives. Un ouvrage très intéressant dont je ne sais pas s'il vous parlera. Donc je ne sais toujours pas qui est le père Schoer, sauf que quand j'étais étudiante ici, il était déjà professeur et j'ai suivi ses cours d'hindouisme, de bouddhisme, d'islam à l'époque. Et je le retrouve maintenant. Nous avons fait dernièrement ensemble un séminaire de théologie chrétienne des religions, des autres religions. Et je pense qu'on peut terminer en disant que le père Schoer est un ami. Merci. Ah oui, tout à fait en haut, c'est pas haut ça. Encore plus haut, presque dans la barbe. Presque dans la barbe. Parce que sinon on n'entend pas ce micro de fil là. Et, oh oui, ah, attends. Il y a toujours un petit moment d'habillement. Hein, dans les bonnes... voilà, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas bien, on prendra un autre micro.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je me suis dit, mais probablement que ce genre de réflexion est intervenu déjà dans les premières soirées du cycle, que bon, 45 ou 50 ans depuis Vatican II, c'est à la fois peu de choses dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des religions, et en même temps c'est déjà beaucoup, et les uns et les autres, nous avons vécu cela peut-être à des distances variables. Moi-même, j'étais en première année de philosophie. Je crois quand le concile s'est ouvert, et comme je viens de le dire à un ami, nous suivions les choses plus ou moins, mais bon, c'était des affaires déjà peut-être un peu trop religieuses et théologiques pour des étudiants de philosophie. Donc nous ne mesurions probablement pas exactement les enjeux. Le texte de ce soir est, je crois, je n'ai pas vérifié de près, mais je pense bien le texte le plus court parmi tous les textes qui ont été promulgué, rédigé par le Concile et promulgué par le Concile. Le texte tout entier tient sur cette double page qui vous a été distribuée, donc ce n'est pas un plan, ce n'est pas un résumé, c'est le texte complet. Et c'est un texte qui a eu, il n'est pas le seul, mais peut-être tout de même celui qui a eu une histoire particulièrement mouvementée, dans le processus, le développement du processus conciliaire. Vous savez bien que Jean 23 a pris un petit peu tout le monde de court en annonçant la convocation d'un concile. Et lors des premières recherches, des interrogations qu'on a envoyées un petit peu partout dans le monde, du courrier qui a été envoyé à tous les évêques du monde, aux facultés de théologie, et ainsi de suite, leur demandant quelles seraient les questions qui devraient être étudiées par le concile qui allait se préparer, pratiquement personne n'a évoqué la question des religions, de la pluralité des religions et du dialogue interreligieux. Ça ne paraissait pas être une question particulièrement brûlante. Alors, est-ce que c'était parce qu'on avait parlé d'un concile plutôt pastoral que théologique ? Est-ce que c'était parce que les évêques européens et d'Amérique du Nord ou d'Amérique latine n'étaient pas vraiment confrontés à la question de la pluralité des religions ? Ce qui est plus étonnant, c'est que les évêques des pays dits de mission n'avaient pas l'air de s'en préoccuper beaucoup plus, parce qu'ils étaient dans des pays où ces religions étaient très souvent majoritaires, mais je pense qu'ils avaient dans la tête l'évangélisation, l'annonce de l'évangile, la conversion, le baptême, mais pas beaucoup l'étude ou la connaissance de ce dont les gens vivaient avant de devenir chrétiens, pour ceux qui allaient le devenir. Et les évêques donc d'Afrique et d'Asie n'avaient pas l'air beaucoup plus intéressés, et les évêques du Proche-Orient et des pays musulmans manifestaient déjà une certaine nervosité en disant que c'était un thème qui était un petit peu délicat, un petit peu dangereux. Et donc, à part l'un ou l'autre, et deux ou trois facultés de théologie, notamment celle de Kinshasa, de l'Ovanium à Kinshasa, on n'avait guère soulevé la question. Et une fois de plus, l'initiative est venue par Jean 23, qui venait de créer à Rome un secrétariat pour l'unité des chrétiens, donc qui allait s'occuper des questions écuméniques. Et Jean 23 a appelé le responsable de ce secrétariat pour l'unité des chrétiens, le cardinal Béa, un Allemand, lui demandant de préparer avec son staff un texte, un schéma, un projet de texte sur les relations avec les Juifs. Jean 23 était particulièrement soucieux de cette question-là. Et bien sûr, on était à peine 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, et aussi moins de 15 ans après la fondation de l'État d'Israël. Donc il estimait qu'il y avait tout de même des questions fondamentales dans les relations avec les Juifs que des chrétiens ne pouvaient pas ignorer, ou sur lesquelles ils ne pouvaient pas garder silence. Dès qu'on a su qu'il y avait quelque chose comme cela en préparation, alors il y a eu pas mal de mouvements, notamment d'associations juives, ou de responsables, enfin d'intellectuels juifs, d'associations juives, et aussi de personnes qui étaient actives dans des associations judéo-chrétiennes, des associations pour les relations entre les juifs et les chrétiens. Et on a préparé donc un premier texte de 7 pages, paraît-il, qui a été préparé donc en 61 par ce cardinal Béa et son staff, et soumis au bureau qui devait coordonner les travaux du Concile à partir de la première session de l'automne 62. Et donc quelques mois avant, ou quelques semaines ou quelques mois avant l'ouverture du Concile, cette commission centrale a décidé que ce texte n'était pas pertinent, ou plus exactement qu'il valait mieux le laisser tomber parce que ça allait créer toutes sortes de problèmes politiques et de problèmes diplomatiques au Proche-Orient, et peut-être aussi des complications alors pour les minorités chrétiennes du Proche-Orient. Et donc, classement vertical, n'est-ce pas, le texte disparaît tout simplement. Et la première des 4 sessions du Concile, donc en 62, se déroule sans qu'il soit nullement question des relations des chrétiens avec les autres religions. On se rend compte par les réactions de l'opinion publique, de la presse internationale, des ambassadeurs, soit d'Israël, soit de pays arabes, de représentants aussi des chrétiens du Proche-Orient, que c'est une question extrêmement délicate de s'exprimer sur les rapports entre les chrétiens et les juifs, parce qu'en réalité, on va tout de suite interpréter les choses dans une clé politique et diplomatique, à savoir une éventuelle reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican, et par conséquent une déception ou une blessure ou que sais-je du côté des Palestiniens et des chrétiens arabes. Cependant, ne rien dire semble tout de même un petit peu difficile, et donc pendant la seconde session du Concile, donc dans l'année 63, l'automne 63, il y a tout de même un petit texte, un peu plus d'une page, donc c'est vraiment pas grand-chose, un peu plus d'une page, qui est de nouveau préparé par le cardinal Béat ou par le secrétariat pour l'unité des chrétiens, et qui devrait se présenter comme un chapitre d'un décret qui est en train de se préparer sur l'écuménisme, sur les questions écuméniques, donc les questions des relations des églises chrétiennes entre elles. Après trois chapitres sur l'écuménisme, le texte se poursuivrait par un petit chapitre sur les relations avec les juifs et un petit chapitre sur la question de la liberté religieuse, de la liberté de religion. Tout de suite, ce nouveau petit texte provoque pas mal de réactions, notamment des évêques du Proche-Orient, qui estiment d'abord que déjà parler d'écuménisme, c'est peut-être pas le travail du Concile. Le Concile doit s'occuper du monde catholique, de la communauté catholique, de l'Église catholique. Il n'a pas à s'occuper des autres églises. Encore moins doit-il s'occuper des autres religions. On ne voit pas pourquoi il interviendrait sur ces questions-là. Et que de toute façon, si on dit quelque chose sur le monde juif ou les relations avec le judaïsme ou avec les juifs, à ce moment-là, eh bien, bon, ce serait mieux de ne pas en parler, mais si on en parle tout de même, il faudrait aussi alors nécessairement parler de l'islam. Et donc, il m'est venu cette image, je ne l'ai pas trouvée dans les textes ou les commentateurs, mais il m'est venu cette image que le texte dont nous parlons ce soir, eh bien, le Concile de Vatican II y est d'une certaine manière parvenu très lentement, avec pas mal de méandres et de détours, et surtout, je dirais, à reculons. C'est en travaillant à reculons que on s'est progressivement approché du texte tel que nous l'avons aujourd'hui, tel qu'il a été promulgué à la fin du Concile, puisque c'est à partir de la question juive qu'on a dit « oui, mais si l'on parle des juifs, on sera très mal compris si l'on ne dit rien sur l'islam ». Et à partir du moment où l'un ou l'autre évêque du Proche-Orient en particulier a réclamé que l'on parle aussi de l'islam et que l'on montre un certain équilibre ou une certaine indépendance vis-à-vis de ces deux camps, à ce moment-là, des évêques plus lointains disent « mais il n'y a pas de raison de parler de l'islam si on ne parle pas des autres religions ». Et donc on a eu des gens comme le cardinal japonais de Tokyo, Monseigneur Tiandoum, un jeune évêque du Sénégal, qui ont dit « si vous parlez de l'islam, il faut aussi parler du bouddhisme, de l'hindouisme, des religions africaines, et ainsi de suite ». Donc c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, n'est-ce pas, on n'avait pas du tout prévu les choses au point de départ, il n'y avait aucune intention de faire une déclaration sur les religions, mais c'est un peu à reculons que, pas à pas, on s'y est engagé. Et donc, dans la session entre la deuxième et la troisième, dans les mois qui ont séparé la deuxième et la troisième session, donc c'est dans les premiers mois de l'année 64, il s'est passé toute une série de choses importantes à l'extérieur même du Concile, donc indépendamment du travail de rédaction et de débat sur les textes. Il y avait d'abord le fait, ça venait du Concile, que la pensée, la réflexion théologique et pastorale sur l'Église, sur ce que c'est que l'Église, avait beaucoup progressé, beaucoup mûri, et que l'on voyait beaucoup plus l'Église comme une communauté de croyants, comme un peuple en marche, et comme un peuple qui a une responsabilité, une mission universelle. Et par conséquent, il devenait beaucoup plus plausible, beaucoup plus normal, en quelque sorte, de se préoccuper des liens entre cette communauté chrétienne, cette Église chrétienne, et puis alors les autres religions, ou éventuellement aussi les personnes qui ne se réclament d'aucune religion. Et puis d'autre part, il y a eu trois événements dans les premiers mois de cette année 64. Tout d'abord, tout au début, en janvier, le pèlerinage de Paul VI, c'était Paul VI maintenant qui présidait aux destinées du Concile, le pèlerinage de Paul VI au Proche-Orient. Et donc un voyage qui s'est déroulé aussi bien du côté de la Jordanie, on est avant la guerre des 7 jours, des 6 jours bien sûr, du côté de la Jordanie que du côté d'Israël. C'était un voyage dont l'intention première était œcuménique. Il s'agissait avant tout de contacts et de visites avec les responsables de différentes églises chrétiennes, notamment des églises orientales au Proche-Orient, à Jérusalem, à Bethléem, que sais-je. Mais le voyage s'est élargi en un pèlerinage, et un pèlerinage pour la paix, dans lequel le pape a manifesté l'intention de rencontrer le monde musulman et de rencontrer le monde juif, et aussi de souligner très fortement qu'il ne s'agissait pas d'une démarche politique ou diplomatique, mais d'une démarche religieuse, spirituelle, d'un pèlerinage. Et donc, bien sûr, tous les contacts, toutes les préparations, toutes les démarches, toutes les rencontres qu'il a faites ont été pesées, je dirais, sur une balance de précision pour qu'il y ait une sorte d'égalité dans les traitements et dans les relations. Mais cela a tout de même marqué beaucoup à ce moment-là. Peu de temps après, à la Pentecôte 64, il y a eu la création, l'institution du secrétariat pour les non-chrétiens. Donc on l'avait depuis peu de temps, 4 ans je pense, un secrétariat pour l'unité des chrétiens. Eh bien, un petit peu sur le même modèle, on crée un peu en marge des vieilles institutions de la Curie romaine, des bureaux ou des groupes de travail plus spécialisés, et celui-ci donc est pour les relations avec les non-chrétiens, les religions non-chrétiennes. Et puis au mois d'août 64, il y a l'encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, qui est une encyclique qui consacre des développements importants au thème du dialogue, de façon d'ailleurs très large, puisque l'on voit l'histoire de la révélation, l'histoire des relations entre Dieu et l'humanité en termes de dialogue, mais cela prépare évidemment de façon très concrète et très immédiate une manière de voir les choses, les relations avec les autres religions également, en termes de dialogue. De sorte qu'il y a tout de même pas mal de terrain qui s'est préparé, les esprits ont été préparés pour que, lors de la troisième session, alors, les choses se reprennent de nouveau, le débat recommence, le travail de rédaction recommence, et un nouveau texte, donc ça fait déjà un deuxième ou même un troisième texte, d'environ 2 pages, est proposé au Père du Concile. Cette fois-ci, ce serait non plus des chapitres, mais des appendices à une déclaration ou un décret sur l'œcuménisme. À la fois les relations avec les Juifs, les relations, plutôt la question de la liberté religieuse, et entre les deux, mais c'est à peine une transition de 4-5 lignes, on signale le fait qu'il y a un certain nombre de religions dans le monde et qu'on va parmi elles parler des relations avec les Juifs. Mais déjà, on a un texte qui, tout en étant plus court, se rapproche tout doucement de celui que vous avez maintenant sous les yeux. Et de nouveau, il y a des réactions assez fortes, en particulier des patriarches des églises orientales, disons c'est vraiment inopportun, c'est dangereux, ça va se retourner en persécution contre les chrétiens du Proche-Orient ou des pays musulmans, et il faut absolument laisser tomber ce texte. Mais d'autres, au contraire, d'autres évêques, au contraire, interviennent pour dire il faut développer quelque peu le petit passage qui commence à s'organiser sur l'islam. Il faut en particulier parler de Jésus et de Marie tels qu'ils sont vénérés dans l'islam. Et il faut aussi dire quelque chose sur les autres religions, les religions de l'Afrique et de l'Asie. Et donc, au cours de cette session, de troisième session de l'automne 64, les choses commencent à prendre forme. Il y a déjà un premier vote indicatif qui laisse dégager tout de même une majorité assez importante en faveur de ce texte, même s'il y a beaucoup de propositions d'amendements, de corrections, d'ajouts, etc. Une majorité assez large, mais en face d'une minorité relativement petite, mais très active et déterminée à refuser en bloc ces choses-là, soit pour les dangers que ça représente au Proche-Orient, soit parce que Mgr Lefebvre et d'autres qui étaient proches de lui dénonce déjà cette manière d'entrer en relation avec les autres religions comme une trahison de la foi chrétienne en quelque sorte. À la fin de la troisième session, en décembre 64, Paul VI fait un nouveau voyage qui est à la fois un pèlerinage en quelque sorte, ou du moins c'est dans les termes du pèlerinage qui annonce une visite au congrès eucharistique de Bombay en Inde, et c'est une occasion qui lui est donnée évidemment d'établir quelques contacts avec le monde hindou, de citer même une prière, une invocation d'un texte hindou dans un de ses discours, et donc en quelque sorte de préparer de nouveau les esprits à un certain élargissement. De sorte que, alors, dans la dernière session, celle de 65, de l'automne 65, eh bien, un texte un peu plus développé, celui que vous avez finalement, va être voté. Cette fois-ci, non plus comme un chapitre, ni même comme une annexe à tel ou tel autre texte, mais comme une déclaration indépendante. On avait pensé raccrocher les choses au texte sur l'Église, Lumen Gentium, dans un premier temps, à la fois pour lui donner une certaine autorité, un certain poids théologique, et aussi pour bien marquer qu'il s'agissait d'une déclaration religieuse et pas d'une déclaration politique. Mais on a abandonné cette idée-là aussi, finalement on en a fait une déclaration distincte. Donc approbation, avec tout de même 250 voix contre, c'est-à-dire un peu plus de 10%, et je pense, je n'ai pas vérifié, mais je crois bien que c'est le texte qui a suscité le plus de votes négatifs. Donc il restait malgré tout, malgré toutes les précautions prises, malgré tous les amendements, etc., il restait une minorité tout de même qui n'était pas très heureuse. Mais c'est très difficile d'interpréter ces votes négatifs, parce qu'il y avait des gens qui estimaient que ce texte n'était pas opportun, pour des raisons que j'ai dites, mettre en danger les communautés chrétiennes du Proche-Orient ou des pays musulmans. Il y en a d'autres qui votaient contre parce qu'ils estimaient qu'on allait beaucoup trop loin. Il y en a qui votaient contre parce qu'ils estimaient qu'on n'allait pas assez loin. Et il y en a quelques-uns probablement qui ont voté contre, notamment du côté de l'Afrique, parce qu'on n'a pas utilisé le mot animisme, qui leur paraissait être le terme qui reconnaisse la spécificité des traditions religieuses africaines. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été très heureux d'utiliser un terme un petit peu technique qui est lié à certaines écoles d'histoire des religions. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait moins enthousiaste de mettre cette étiquette d'animisme sur les religions traditionnelles de l'Afrique ou d'autres régions du monde. Je ne sais pas trop. Alors, ce texte, évidemment, intervient à un moment où j'ai dit qu'on n'était plus pas très loin encore de la Seconde Guerre mondiale. Mais on était aussi, je le rappelle très rapidement, à l'époque des décolonisations, des indépendances politiques, d'un grand nombre d'Asie, là ça avait déjà commencé un peu plus tôt, mais d'Afrique, on était, je dirais, en plein dedans, 62-65, la plupart des pays africains venaient d'arriver tout juste à l'indépendance. On parlait beaucoup des jeunes églises. Parfois ces jeunes églises d'ailleurs étaient déjà vieilles, parce que l'église de l'Inde du Sud, bon, elle date au moins du 4e siècle, donc elle n'est pas plus jeune que l'église de Belgique, faut-il le dire, mais enfin on parlait beaucoup des jeunes églises, et au fond je pense qu'on était déjà dans un mouvement que nous appelons aujourd'hui la globalisation. Donc il devenait tout à fait indispensable de se situer comme chrétien face à cette pluralité religieuse qui, bien sûr, était évidente en Afrique et en Asie, mais qui existait aussi ailleurs et qui devenait une question un petit peu partout dans le monde. C'est un texte, évidemment, qu'il ne faut pas lire de façon isolée des autres textes de Vatican II. Le texte qui est un texte beaucoup plus central de ce point de vue-là, c'est évidemment Lumen Gentium et les textes sur l'Église. Mais il faut le lire aussi, je dirais presque en ayant lu ou en sachant qu'il y a aussi le texte sur la liberté religieuse ou la liberté de religion. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens de parler des relations avec les autres religions et encore moins de parler de dialogue interreligieux si on ne reconnaît pas franchement la liberté de religion, la liberté de croire ceci ou autrement, ou de ne pas croire. Au XIXe siècle, la liberté de religion n'était pas quelque chose qui allait de soi dans le monde catholique. Et donc, un siècle plus tard, Dieu merci, les choses s'étaient décantées. Mais c'est clair que si on ne met pas ça comme une préface, un texte comme celui que nous examinons ce soir n'a pas de sens, ou n'a même pas la possibilité d'exister, en quelque sorte. Et puis, alors, il faudrait évidemment mettre notre texte en parallèle. Donc, cela sera fait dans la suite de votre programme, en parallèle avec le texte sur l'activité missionnaire de l'Église. Donc, ad gentes, le fait que l'Église est envoyée aux nations hein, de façon universelle. Et donc, on aura toujours évidemment cet équilibre hein, qui s'est cherché pendant le Concile et qui se cherche encore aujourd'hui entre la relation de dialogue et d'échange spirituel avec les croyants des autres communautés religieuses d'une part, et la mission qui est celle de tous les chrétiens et qui ne cesse pas pour autant d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. On va d'ailleurs voir que c'est mentionné très brièvement, mais très fortement, très catégoriquement dans notre texte. Alors, le texte lui-même que vous avez sous les yeux, je ne vais pas évidemment le lire en entier, je vais tout de même proposer, disons, quelques observations. Donc c'est une déclaration, c'est-à-dire un texte qui n'a pas le même poids ou la même importance que quelques-uns des textes majeurs et beaucoup plus théologiques ou beaucoup plus dogmatiques du Concile. C'est un texte qui, je dirais, se présente de façon relativement plus libre, en quelque sorte, et puis aussi sur des questions qui, par bien des côtés, étaient des questions beaucoup plus récentes, ou en tout cas qui avaient pris un aspect beaucoup plus... qui avaient récemment pris des aspects très nouveaux, et par conséquent, d'une certaine manière, la réflexion de l'Église, la réflexion théologique et la réflexion pastorale sur ces questions-ci était encore dans les langes, enfin, elle balbutiait encore, elle se cherchait encore. Déclaration sur les religions non chrétiennes. Alors, non chrétiennes, bon, il faut quand même se dire que ce n'est pas très heureux comme titre, mais que c'est presque inévitable. Je veux dire que si on veut parler de façon brève, on est presque obligé d'utiliser cette étiquette de non chrétienne. Mais c'est évidemment pas très heureux parce que c'est jamais très bien de définir les gens par ce qu'ils ne sont pas. Donc c'est évident qu'un bouddhiste pourra dire qu'il a rencontré avec beaucoup d'amitié des gens qui se sont dit chrétiens et que les chrétiens, ben, le christianisme après tout c'est une des nombreuses religions non bouddhistes. Donc le christianisme se définit comme une religion non bouddhiste, mais bien sûr, oui, tout à fait, de la même manière que le bouddhisme se définit ici comme une religion non chrétienne. Donc cette manière négative de parler, je dis, elle est presque inévitable, parce que si on ne veut pas faire de longues périphrases chaque fois que l'on cite ce mot-là, bon, mais en même temps, ça a quelque chose d'un petit peu indélicat malgré tout. Ce qui est plus important, c'est que c'est une déclaration sur, non pas sur les religions non chrétiennes, parce que ce n'est pas le travail d'un concile de faire de l'histoire des religions ou une encyclopédie sur les religions ou que sais-je. Donc on ne va pas parler des religions pour elles-mêmes et en elles-mêmes, on va parler des relations que les chrétiens, que les catholiques en particulier, doivent entretenir, devraient entretenir, sont encouragés à entretenir ou à développer avec les membres des communautés croyantes qui se situent dans d'autres patrimoines religieux, dans d'autres patrimoines ou traditions spirituelles. Voilà. Et là, on a un mot, donc « les relations » en français. Le mot latin, c'est « habitudo ». Et « habitudo », ce n'est pas « habitude hein, », même si c'est le mot « habitude » en français, mais « habitudo », c'est quelque chose comme la manière de se comporter à l'égard de. Une certaine manière de se situer et de se comporter ou de se... à l'égard de. Et on a traduit ça au pluriel en français par les relations, parce que c'est un mot qui n'est pas si facile à traduire littéralement en français. Le titre, non pas le titre officiel, mais le titre qui sert à citer le texte, comme vous savez, c'est Nostra Aetate. Voilà. C'est-à-dire, comme d'habitude, les deux ou trois premiers mots du texte latin servent comme une sorte de titre raccourci pour les encycliques, pour les documents conciliaires, etc. Le choix est intéressant parce que dire à notre époque, dans notre âge, on pourrait presque dire dans notre nouvel âge, c'est bien marqué dès le départ, dès les premiers mots, qu'on a conscience d'aborder une question qui a été profondément renouvelée, profondément transformée dans les années qui ont précédé le concile. Et le fait, par exemple, qu'il n'y ait pratiquement aucune citation, ni de pape, ni de père de l'Église, ni de tout ce que vous voulez, alors que les textes conciliaires, en général, ont un tapis de référence au bas de chaque page, ça montre bien qu'on partait peut-être pas tout à fait de zéro, mais qu'on abordait des questions vraiment nouvelles. Je pense que d'une certaine manière, on pourrait soutenir la thèse que ce texte-là est celui qui représente la plus forte nouveauté, la plus nette nouveauté de Vatican II. Je ne dis pas nécessairement que c'est le texte le plus important, mais c'est celui pour lequel on a fait en 3 ou 4 ans un chemin tout à fait neuf et tout à fait fondamental. Donc, à notre époque. Alors, c'est un texte qui va chercher, puisqu'il oriente vers le dialogue, qui va chercher une base commune, qui va chercher des points communs. Et donc, le premier paragraphe de ce texte-là va partir du fait qu'on cherche à établir, à définir quelles devraient être les relations des chrétiens, des catholiques avec les croyants, les communautés et le patrimoine spirituel des autres religions, mais en partant d'abord de l'idée que les religions ont quelque chose en commun. Parce que les religions, sont des tentatives de réponse à des questions que tous les êtres humains se posent d'une manière ou d'une autre. Et donc on commence par dire d'abord que tous les êtres humains ont la même origine. Bon, bien sûr, ça c'est le chrétien qui parle, même si beaucoup de non-chrétiens pourraient aussi les rejoindre dans une assez large mesure sur ce point-là. L'humanité tout entière, c'est-à-dire l'humanité sans distinction, sans discrimination, a une origine commune qui est Dieu, le Créateur, et elle a une fin commune aussi, un but commun, qui est de nouveau Dieu qui est à la fin de l'histoire, pour ainsi dire, et qui fera l'unité ou refera l'unité de toute cette humanité. Ensuite, donc, on présente les religions comme des essais de réponse à ce que l'on appelle ici les énigmes cachées de la condition humaine. Donc on parle de façon extrêmement générale, extrêmement universelle, tous les êtres humains sont concernés, et c'est justement les questions que les hommes se posent, que l'humanité se pose sur d'où venons-nous, où allons-nous, quel est le sens de l'existence, quelle est l'origine du mal, pourquoi y a-t-il de la souffrance, y a-t-il quelque chose après la mort. En fait, toute une série de questions comme cela que toutes les civilisations, toutes les cultures se posent, bien sûr de façon différente, mais sur le même terrain, en quelque sorte. Voilà. Et on a déjà dans ce paragraphe-là, une première fois, le mot « voie ». On cherche un chemin, on cherche une voie. Alors, à partir de là, au numéro 2, on va montrer comment les différentes religions n'ont pas spécifiquement l'islam et le judaïsme dont on va parler dans des alinéas suivants, mais comment la diversité des religions, y compris bien sûr aussi l'islam et le judaïsme, comment ces religions donc sont des tentatives de réponse à ces questions-là. Et on commence en prenant un regard très large qui remonte, je dirais, aux origines de l'humanité, en quelque sorte, début du numéro 2. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, on trouve chez les différents peuples une certaine sensibilité, le latin c'est perceptio, une certaine saisie ou une certaine... Bon. Alors à quoi? Une sensibilité à quoi? À cette force cachée, virtus, à cette force cachée qui est présente dans le cours des choses et dans les événements de la vie humaine. On ne dit pas Dieu, on dit une force cachée. Donc, vous pouvez penser à toutes sortes de traditions religieuses dans lesquelles on parle d'énergie, de force, de puissance, d'esprit au pluriel, tout cela déjà représente une certaine recherche de la part de l'être humain. Et parfois même, alors ce serait un petit peu plus, parfois même une reconnaissance de la divinité suprême. Mais là aussi, la traduction française est peut-être un petit peu trompeuse, parce qu'on pense que divinité, c'est déjà quelque chose de très précis, alors que le mot latin, c'est noumen. Donc quelque chose de lumineux, quelque chose de sacré, quelque chose de supérieur aux êtres humains, hein, mais qui n'a pas nécessairement de dessin, de contenu très, très précis. Ou bien alors, on va plus loin, il y a des religions, par exemple, dans pas mal de traditions africaines, mais aussi ailleurs, où on parle de Dieu comme Père. Et donc là, bien sûr, il y a une proximité plus grande avec ce que des chrétiens peuvent connaître. Donc cette sensibilité répandue partout dans le monde, et cette connaissance, et je crois que connaissance, ça veut dire ici aussi reconnaissance, cette reconnaissance pénètre la vie de tous les êtres humains d'un profond sens religieux. Manifestement, on parle ici de religions pour lesquelles on a d'ailleurs de la peine à trouver un terme, n'est-ce pas ? Parfois les religions premières, plus personne n'ose parler de religion primitive, mais religion première, ou bien les religions traditionnelles. Ben, y a-t-il des religions qui ne sont pas traditionnelles ? C'est un peu bizarre comme expression, mais pourquoi pas, hein ? Voilà. Et puis on passe à autre chose, en disant, quant aux religions qui sont liées au progrès de la culture, alors là il me semble qu'il y a une espèce de reste de pensée, je dirais, évolutionniste un peu trop du 19e siècle, qui me semble aujourd'hui, en histoire des religions, ne plus avoir beaucoup de sens. Hein. Donc, si vous voulez, il y a des religions premières, bon, presque primitives en ce sens-là. Et puis, alors, des religions qui sont liées à un degré de culture plus avancé, et on va nommer l'hindouisme et le bouddhisme. Et bien sûr, l'islam, le christianisme, etc. Donc là, il y a quelque chose, manifestement, qui porte un petit peu la date de sa rédaction et qui pourrait être amélioré aujourd'hui. Alors, de quoi est-il question ? De l'hindouisme, d'abord. On va souligner beaucoup la diversité des courants dans l'hindouisme. On va souligner aussi l'importance des mythes. Et ça, c'est assez nouveau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théologiens qui parlaient des mythes en termes positifs. Hein. En général, c'était pour dire que c'était des enfantillages qu'il fallait dépasser. Donc, mais on voit bien que dans l'hindouisme, la réflexion philosophique, l'intériorisation, la méditation spirituelle et le langage mythique vont de pair, ne s'excluent pas, mais au contraire se complètent plutôt l'un l'autre, ou les uns les autres. Et on souligne que dans l'hindouisme, il s'agit de libération. Il faut se libérer du mal, il faut se libérer du karma, il faut se libérer du cycle des renaissances, voilà ce qui est important. Et de même pour le bouddhisme. Pour le bouddhisme, on dira qu'il y a des formes variées du bouddhisme. On sait qu'il y a le petit véhicule, le grand véhicule, le bouddhisme chinois, japonais, etc. Mais on va aussi montrer la diversité interne au bouddhisme, au sens où il y a des écoles bouddhistes qui soulignent très fort l'effort de l'être humain qui veut se purifier pour parvenir au nirvana. D'autres écoles qui mettent une confiance extrême, presque exclusive, dans la compassion du Bouddha qui peut nous sauver. Donc là, on a à l'intérieur du bouddhisme des choses assez contrastées, assez riches, et on montre qu'on est au courant de cela. Hein. On montre qu'on en tient compte. On n'entre pas dans les détails, puisqu'il y a 3-4 lignes sur l'hindouisme, 3-4 lignes sur le bouddhisme, mais chaque mot, en réalité, porte. Hein. Si on avait un peu plus de temps, on pourrait les analyser et montrer que ça répond à des courants assez précis. Et on conclut ce petit alinéa en disant, et de même aussi les autres religions, alors on ne dit pas lesquelles, hein, ça pourrait être les traditions chinoises, le taoïsme, ça pourrait être le sikhisme, ça pourrait être d'autres choses encore, les autres religions s'efforcent d'aller de façon diverse au-devant de l'inquiétude du cœur humain, bon, vous allez voir un thème augustinien là-bas j'imagine, en proposant des voies, voilà le mot voie qui revient déjà plusieurs fois, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. Et ça me paraît très important. Ça revient 2-3 fois dans le texte. Je pense que la tendance spontanée du théologien chrétien ou du théologien tout court qui aborde d'autres religions, c'est de faire attention avant tout aux doctrines. Et à travers les siècles, on sait bien que l'attention aux doctrines, ça a été très souvent quand même la dénonciation des erreurs ou des hérésies qui se trouvent dans ces autres doctrines. Alors qu'ici, on a une approche qui, à mon avis, correspond beaucoup plus à ce que l'histoire des religions et les sciences humaines des religions ont aidé à reconnaître, à savoir que les doctrines, les croyances, les théologies sont importantes, mais les rites, les symboles, les images, les institutions, les communautés, les ministères, etc., sont tout aussi importants. Et comme le concile voulait être pastoral, c'était une raison de plus de prendre les religions comme des ensembles très complexes, très riches, qui ont toutes sortes de dimensions, des dimensions doctrinales, mais aussi des dimensions liturgiques, rituelles, spirituelles, artistiques, communautaires, et ainsi de suite. La deuxième moitié l'alinéa numéro 2 est, d'une certaine manière, le texte central du point de vue de la réflexion théologique sur les religions et de l'attitude que les chrétiens sont appelés à avoir à l'égard de ces religions. Alors, ça commence de façon négative, je veux dire par une formulation négative, mais qui a un sens positif. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Et même positivement, elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, donc vous voyez toujours ces multiplicités d'aspects, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce que elle-même, l'Église catholique, tient et propose, donc on n'est pas en train de dire toutes les religions disent la même chose, etc., hein, c'est pas du tout ça. Cependant, tout cela apporte souvent, alors ça c'est le petit passage qui est le plus central au niveau théologique, si vous voulez, au niveau de la foi, apporte souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Bien sûr, la vérité qui illumine tous les hommes, c'est le Christ, pas pour un chrétien. Et donc, on voit dans les religions des reflets ou des rayons de cette lumière, de cette vérité qui illumine tous les hommes. C'est à la fois une façon extrêmement positive, et tout de même par rapport, je ne dis pas à toute la théologie précédente, certains pères de l'Église avaient déjà dit des choses très belles dans ce sens-là, mais tout de même par rapport à la théologie des siècles passés, de nombreux siècles passés, ça représente tout de même un tournant considérable. Mais en même temps, on voit bien que c'est une formule très vague, c'est une image, un reflet de la lumière qui... Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc il ne faut pas s'étonner si après le Concile et jusqu'à aujourd'hui, les théologiens débattent entre eux pour proposer chacun leur interprétation ou leur manière d'exprimer de façon plus rigoureuse, plus précise, plus scientifique, si vous voulez, ou plus théologique, ce que cela peut vouloir dire exactement. Alors, la phrase suivante vient apporter ce rappel que les relations de dialogue ou de coopération n'enlèvent rien à la vocation chrétienne et à la responsabilité chrétienne d'annoncer l'Évangile, donc la mission. Toutefois, l'Église annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Et dans lequel les hommes trouveront la plénitude de la vie religieuse. La plénitude, voilà un autre terme qui apporte tout de même une clé théologique pour situer la foi et la vie chrétienne par rapport à la foi et à la vie que l'on trouve dans d'autres religions. Si vous voulez, on reprend la plénitude ou l'accomplissement, on reprend une catégorie qui a servi depuis toujours aux chrétiens, depuis les premiers temps aux chrétiens, à se situer par rapport au Premier Testament, à la Première Alliance, par rapport au monde juif, et on étend d'une certaine manière cette catégorie ici à l'ensemble des religions, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'on va traiter le judaïsme sur le même pied que les autres, comme on va le voir. Et la conclusion plus pratique, alors, c'est d'exhorter les chrétiens, les catholiques, à entrer en dialogue. Alors le mot dialogue, c'est colloquia en latin, au pluriel, dans des conversations, en quelque sorte, dans des échanges, enfin il faut parler, il faut se parler. Hein. Donc le, il y a rarement le mot dialogus, pas qu'il n'y ait pas tellement un mot latin finalement, je crois, mais dans certains contextes plus modernes, plus récents, le concile ou les textes d'après le concile utilisent en latin dialogus, mais très souvent c'est d'autres mots comme colloquia qui sont utilisés. Et la fin de ce petit, de ce numéro 2 est assez forte si on veut bien voir les choses. Hein. Les chrétiens sont exhortés à reconnaître, à préserver et à faire progresser, hein, ce qui est vraiment actif, je dirais, à faire progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent dans ces autres mondes religieux. Donc là, il y a un fameux programme, si on veut bien se mettre au travail. Et puis commencent alors, je dirais, les textes qu'on avait en tête plus tôt dans le développement du concile, hein, à savoir l'islam et puis surtout le judaïsme. Donc le numéro 3, c'est l'islam. Alors je n'entre pas dans les détails, simplement deux ou trois observations. D'une part, on va accumuler des noms ou des titres de Dieu qui sont des noms et des titres de Dieu qu'un chrétien peut parfaitement partager, mais qui sont habituels dans l'islam, qui se trouvent dans le Coran par exemple. Donc de nouveau, on cherche une base commune, si vous voulez, hein, on souligne les points communs. Deuxièmement, on va souligner l'importance de la figure d'Abraham, parce que aussi bien les juifs que les chrétiens que les musulmans se réclament de ce père dans la foi, de ce premier croyant monothéiste, même si chacun le fait un petit peu à sa manière. Et puis alors, on va souligner aussi le fait que les musulmans honorent, vénèrent Jésus comme prophète et honorent Marie, sa mère virginale. Voilà pour ce qui est dit explicitement. On dit aussi que Dieu a parlé aux hommes. Ça, c'est très important pour l'islam, évidemment. Dieu a parlé aux hommes, sous-entendu par les prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, et à travers des livres saints, la Torah, l'Évangile, le Coran. Bon. Mais ça, on ne le dit pas. On dit simplement Dieu a parlé aux hommes. Et le grand absent de ce texte sur l'islam, c'est Mohammed. Il n'est pas question de Mohammed. Parce que le problème qui se posait et qui n'est toujours pas résolu, ou en tout cas le pas que l'Église ne veut pas franchir, c'est de reconnaître Mohammed comme prophète. Or, le problème est toujours le même, n'est-ce pas ? Dès que les musulmans disent « Nous reconnaissons Jésus comme prophète », ils disent aux chrétiens « Et pourquoi vous, vous ne reconnaissez pas Mohammed comme prophète ?» Et donc, on n'a pas osé nommer Mohammed parce qu'on aurait dû dire qu'il est prophète ou ne pas dire qu'il est prophète. Et donc, on voulait éviter absolument ce point-là. Numéro 4, le texte sur les relations avec les juifs. Qui est le texte le plus long, hein, qui est le texte que l'on avait en tête au début du concile, le seul texte que l'on avait l'intention de travailler lorsque le concile s'est ouvert, et un texte qui a aussi été l'objet de discussions âpres, de débats interminables, de crises à l'intérieur de la salle du concile, et ainsi de suite. Un texte qui finalement tout de même est assez beau et assez fort, je pense. Alors, faites bien attention au premier mot. En scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement, pas charnellement, mais spirituellement, le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Donc, en scrutant le mystère de l'Église. C'est-à-dire que lorsque des chrétiens, des catholiques en particulier, mais des chrétiens, se situent par rapport aux juifs, par rapport au judaïsme, ils ne regardent pas d'une certaine manière à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est en s'interrogeant sur l'identité chrétienne elle-même, c'est en s'interrogeant sur le mystère de l'Église elle-même, qu'on ne peut pas ne pas parler du monde juif. Alors c'est un développement de quelque chose qui est interne à l'identité chrétienne. À la limite, on pourrait dire, on ne va pas parler des bouddhistes, on ne va pas parler de ceci ou de cela, ça n'est pas essentiel, hein, ça peut être important, mais ce n'est pas essentiel. Mais la relation aux juifs, ça fait partie de la définition même de l'être chrétien. Il n'y a pas moyen de ne pas parler d'eux. Hein. Donc, en scrutant le mystère de l'Église, voilà à quoi on est conduit. Alors, on commence par dire que l'Église reconnaît dans la communauté, dans le peuple juif, les prémices de sa propre foi chrétienne et de sa propre élection chrétienne. On va reprendre pas mal de passages de saint Paul, notamment sur la greffe de l'olivier, etc., n'est-ce pas, pour essayer d'exprimer l'idée que les chrétiens ne viennent pas remplacer le peuple juif comme si la première alliance n'avait plus aucune valeur. Ce que beaucoup de chrétiens ont proclamé à travers les siècles. Nous sommes le nouvel Israël et donc le monde juif c'est fini, ils sont perdus, ils sont maudits, ils sont je ne sais pas tout quoi, ça n'a plus aucune valeur maintenant. Ici, au contraire, on va refuser cette substitution, hein, ce remplacement de l'un par l'autre, parce que les promesses de Dieu, les alliances de Dieu, eh bien, elles sont sans repentance. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a promis et sur ce qu'il a accordé. Alors, il y a la question de la mort de Jésus, hein, donc la question du déicide. Les Juifs seraient déicides, ils auraient tué Dieu et ils seraient par conséquent condamnés et maudits à cause de cela. Et une des racines profondes, sinon la principale de l'antisémitisme vient de là. Et donc c'est en quelque sorte cette question-là surtout qui a été l'amorce d'une réflexion qui s'est introduite tout doucement dans les travaux du Concile et qui a abouti à un autre texte. Et donc là on dit bien qu'il n'est pas question d'abord d'accuser tous les juifs contemporains de Jésus de la mort de Jésus. Bien sûr, il y a des autorités juives qui ont trempé dans la mort de Jésus, mais ce n'est pas tous les juifs de cette époque-là, et encore moins les juifs qui vivent depuis 20 siècles et qui ne sont pour rien, évidemment, dans le fait que Jésus de Nazareth a été crucifié. Le Concile va même dire, à la fin du texte, que s'il y a des responsabilités historiques de certaines personnes dans ce qui s'est passé ce jour-là, lors de la crucifixion, il y a aussi une responsabilité spirituelle ou théologique plus profonde qui est que Jésus volontairement a voulu mourir pour le salut de tous les hommes et pour la rémission des péchés de tous, y compris ceux des chrétiens. Et donc on a évidemment là une autre manière de poser la question de la responsabilité. La conclusion, bien sûr, c'est que toute opposition, tout antisémitisme, le mot est dans le texte, hein, est tout à fait malvenu et condamné et rejeté vigoureusement par l'Église chrétienne. Le numéro 5 eh bien, revient au thème de ce qui est commun à l'humanité tout entière, de ce qui est universel à l'humanité tout entière, et appelle donc tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, à éviter toute discrimination et à travailler ensemble, au contraire, pour la paix et pour une meilleure entente dans un esprit de coopération, pas seulement de dialogue, mais aussi de coopération. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de ce que le texte, et pas seulement le texte, mais je dirais ce à quoi le texte appelle, et les perspectives que ce texte ouvre, l'histoire de ce que ce texte a ouvert depuis 45 ans à peu près. Il faudrait pas mal de temps pour cela. J'évoque simplement, si vous voulez, quelques jalons. Il a certainement ouvert beaucoup de choses, notamment dans certaines églises de l'Afrique ou de l'Asie. Par exemple, en Inde, que je connais un peu moins mal, c'est sûr qu'à la fin des années 60 et dans les années 70, sur la base de ce texte en particulier, il y a eu comme une libération d'énergie extraordinaire pour une véritable inculturation du christianisme dans la culture indienne, qui est une culture hindoue, pour une étude de la spiritualité de l'hindouisme, pour une adaptation de la liturgie, non seulement à la culture, mais aussi à une certaine forme de spiritualité hindoue, et pour des relations de dialogue avec différents milieux de l'hindouisme. En même temps que ça provoquait d'ailleurs des difficultés dans une partie du monde chrétien, en particulier des laïcs d'églises plus anciennes qui remontaient à la période portugaise. Et ces gens-là, on leur avait dit pendant 2 ou 3 siècles, n'allez jamais entrer dans un temple hindou, ne participez jamais à une fête hindoue, etc., parce que c'est de l'idolâtrie, parce que vous allez perdre la foi. Et puis maintenant, tout à coup, il y avait un texte qui leur disait, bon, 180 degrés, n'est-ce pas? Bon, donc il y a eu évidemment des difficultés là-dedans et des résistances, c'est assez normal. Au niveau de l'Église universelle, et sans parler, sans parler, j'aurais dû le faire, mais là aussi le temps manque, que en parallèle au processus de Vatican II, des choses assez comparables se sont déroulées dans le milieu du Conseil œcuménique des Églises. Et que donc les Églises réformées ou les Églises orthodoxes faisaient un travail assez comparable en parallèle sur leurs relations avec les différentes religions mondiales. Mais pour rester dans le monde catholique, eh bien, tout d'abord, le secrétariat pour les non-chrétiens, qui va plus tard changer de nom et devenir donc le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, va publier toute une série d'études sur les différentes religions, toute une série de brochures ou de petits livres sur le dialogue avec chacune des principales religions, va constituer un réseau d'experts qui, dans les différentes églises, sur les différents continents, vont participer à ce développement du dialogue et de la coopération avec d'autres croyants, et va servir aussi à Rome de lieu d'hospitalité pour les musulmans, les juifs, les bouddhistes qui passent à Rome et qui demandent une audience au pape et qui essayent d'établir de bonnes relations avec le monde catholique. Ensuite, il y a en particulier des initiatives de Jean-Paul II. Et là, j'en rappelle simplement deux. Son discours à la jeunesse musulmane dans le stade de Casablanca pendant sa visite au Maroc, qui a été vraiment, par rapport à l'opinion publique musulmane, un tournant dans les relations avec le monde catholique en 1985 et l'année suivante en 1986, donc la fameuse journée d'assises dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui. Et puis plusieurs documents importants qui vont développer ce qui était en germe dans Nostra Aetate, un document qui s'appelle « Dialogue et mission » en 1984, qui justement va vouloir montrer qu'il n'y a pas d'opposition ou de contradiction entre le dialogue interreligieux d'une part et l'évangélisation d'autre part, ou la mission, le travail missionnaire d'autre part. Et cette question-là va être reprise et approfondie encore dans un très beau texte, un texte assez long, une quarantaine de pages, mais un texte très riche qui s'appelle « Dialogue et annonce ». Donc même l'annonce de l'Évangile, l'annonce au sens strict, au sens le plus direct, si elle est faite bien sûr dans le respect, n'est pas contradictoire avec le dialogue, mais elle est complémentaire du dialogue. C'est un texte extrêmement nuancé et vraiment très beau. 1991. Il y a aussi un document de la Commission théologique internationale de 1997, le christianisme et les religions. On va creuser de façon plus technique, plus réfléchie, plus théologique les raisons et les modalités de ce rapport de dialogue et de coopération avec les autres religions. Il y a un texte qui, lui, a été parfois ou assez souvent ressenti un peu comme un coup de frein, Dominus Iesus, en l'an 2000, qui était un peu un cri d'alarme en disant « Oui, mais attention, il ne faut pas que cela conduise au relativisme, à dire que tout ça, c'est la même chose, que toutes les religions se valent, que l'identité chrétienne se dilue en quelque sorte dans une espèce de grande entente multireligieuse. » Et puis enfin, c'est le dernier élément que je citerai, il y a eu en 2007, on pourrait citer d'autres choses, mais enfin en 2007, un appel signé par 138 intellectuels et responsables religieux musulmans pour développer un dialogue théologique et des relations plus positives entre les musulmans et les chrétiens. Pas seulement les catholiques, mais les chrétiens plus largement. Et ces 137 personnes sont quand même des gens qui souvent sont des gens importants, des gens de poids, et qui se répartissent un peu dans tout l'ensemble du monde musulman, pas seulement au Caire, mais un peu dans tout le monde musulman. Donc si vous voulez, on a là toute une série de jalons qui montrent que les questions qui ont été traitées parfois âprement à Vatican II et qui n'ont reçu qu'une espèce d'encouragement, de porte ouverte pour explorer, qui n'ont pas reçu de réponse précise au niveau de la réflexion théologique, eh bien, ont mis en branle justement tout un travail théologique d'une part et tout un travail aussi de relations, de dialogue et de coopération, de collaboration d'autre part. Je vous remercie de votre attention. Oui.